Radio Okapi.
Le journal Pascal Massirica.
À la une ce midi, CHAN Cameroun 2020. La RDC affronte la Libye ce jeudi à Douala. Un match important pour les Léopards qui escomptent une qualification sans stress au deuxième tour. Poursuite à la prison de la Kasapa Lubumbashi du procès contre Daniel Ngoï Moulunda. Le ministère public poursuit l'ancien président de la CENI pour incitation à la haine, propagation de faux bruits et atteinte à la sûreté de l'État. Notre invité, c'est l'ambassadeur britannique à RDC, Emily Matman, vient d'effectuer sa première visite de travail dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Objectif, palper du doigt les réalités sociopolitiques et économiques dans ces deux provinces. Madame, messieurs, bonjour. En sport, CHAN Cameroun 2020, c'est ce jeudi à Douala, au stade de Djapona, à 18h, heure de Béni, que les Léopards de la RDC vont affronter les Chevaliers de la Méditerranée, de la Libye, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poule groupe B. Un match très important pour les Léopards pour une qualification sans stress au deuxième tour. D'autres précisions sur cette rencontre d'aujourd'hui avec vous, Dieudonné Joseph Kabeyangalula.
Si les Zimbabwés battus hier par les Burkina Faso a été le premier pays éliminé, la République démocratique du Congo, quant à elle, peut devenir le premier pays qualifié pour les quarts de finale de ce CHAN 2020. En cas de victoire ce soir sur la Libye, les Léopards sont ainsi à 90 minutes de la qualification. Le staff technique et les joueurs en sont conscients. La clé de la victoire, selon le sélectionneur Florent Ibengué, est que ces joueurs soient libérés du stress et qu'ils jouent avec joie. C'est vrai que ce match Libye-RDC est une confrontation des champions d'Afrique. La Libye, vainqueur en 2014, et la République démocratique du Congo, deux fois en 2009 et 2016. Ce qui fait que ce match sera difficile et amplement disputé. Cependant, le souhait de tous les Congolais est qu'en cas de force égale en définitive, la République démocratique du Congo en sorte gagnante.
Merci Dieudonné Kabeyangalula. CHAN Cameroun 2020, en prévision du deuxième match de la RDC contre la Libye aujourd'hui, le micro-baladeur de Radio Okapi a circulé dans les rues de la ville de Kisangani et de Butembo pour recueillir les différents avis, des propos recueillis par nos correspondants sportifs.
Nous donnons d'abord la chance à notre team, notre équipe nationale, pour son match, son deuxième match. Je donne la victoire à mon équipe, mais je recommande aussi au gouvernement de motiver les joueurs.
Ouais, bon, en tant que Congolais, je ne peux que supporter mon pays. RDC va gagner 2-0.
Ah, que les meilleurs gagnent, Kak.
Bon, avoir l'équipe qui était alignée pour le premier match, je crois que le sélectionneur n'a pas de choix pour pouvoir la changer. Peut-être faire quelques remaniements, notamment au milieu de terrain. Là, il faudrait que peut-être l'entraîneur voit comment faire bouger un peu plus cette équipe.
Justice à présent. Le procès ministère public contre le pasteur Daniel Ngoï Moulunda se poursuit à la prison de la Kasapa à Lubumbashi. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante est poursuivi pour incitation à la haine, propagation des faux bruits et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ses avocats ont crié au non-respect de la procédure par le tribunal tout au long de l'audience d'hier mercredi. Pour en parler, retrouvons à Lubumbashi Jean Gandou.
Cette affaire se déroule au tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo et se tient en chambre foraine de la prison de la Kasapa. D'entrée des jeux, les avocats de la défense ont soulevé l'exception de la saisine du tribunal. Pour eux, le tribunal n'a pas été régulièrement saisi. Pour cela, la procédure devait être ordinaire et non en mode de flagrance. À ce moyen soulevé par la défense, le tribunal s'est prononcé par un jugement avant dire droit. Dans sa décision, le tribunal a dit recevoir les moyens soulevés par la défense, qui les a jugés non fondés et s'est déclaré valablement saisi. Il a donc ordonné la poursuite de l'affaire en procédure de flagrance. flagrance. Non contente de la décision, séance tenante, la défense a interjeté appel. Mais content, les avocats de la défense se sont retirés du procès avant de se rétracter plusieurs heures après. En leur absence, le pasteur Daniel Ngoyimulunda n'a répondu à aucune question. Les avocats ont aussi déposé devant le tribunal l'acte d'appel dûment signé par le bureau du greffier tutélaire. Le tribunal de Séan a donc sursis l'instruction de la cause en attendant que le tribunal d'appel se prononce. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, les communautés kassayennes et katangaises sont appelées à vivre en harmonie et à éviter tout acte susceptible d'embraser la province. C'est l'essentiel de la rencontre tenue hier mercredi entre le gouverneur de la province et les représentants de ces deux communautés. Le compte-rendu de Jean Gandou.
Cette rencontre fait suite aux échauffourées survenues entre les jeunes présentés comme ceux de la communauté kassayenne et ceux de la communauté katangaise, avec notamment la mise à sac du siège de l'association socioculturelle dénommée Sakwaya Baluba. Pour le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Aboula, les deux associations doivent vivre en harmonie et que les incidents du genre de ceux déplorés le mardi dernier ne devraient plus se reproduire. En effet, à la suite de l'arrestation du pasteur Daniel Ngoyimulunda, les jeunes membres de Buluba Ibukata étaient partis manifester devant les palais de justice réclamant sa libération. C'est à leur retour que ces incidents ont eu lieu. Les deux parties se rejettent la responsabilité. Présents à cette rencontre, les représentants de ces deux communautés ont eu la charge de répercuter le même message auprès de leurs membres respectifs. Celui de Buluba Ibukata a, au sujet des dégâts causés au siège de son association, demandé à ses membres de se calmer et de laisser la justice faire son travail. Le représentant de la communauté kassayenne a aussi appelé les siens au calme et à la concorde. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, en plus bref, l'informateur Modeste Batulukebo a présenté hier mercredi au président Félix Tshisekedi Tshilombo 25 chefs de regroupement et partis politiques ayant adhéré jusqu'ici à l'Union sacrée de la nation. Selon la presse présidentielle, ces leaders politiques représentent des centaines de députés nationaux. S'agissant du nombre de députés nationaux membres de la nouvelle majorité parlementaire, l'informateur a dit réserver la primeur au chef de l'État. Toutefois, il s'est montré très optimiste. Il se dessine une écrasante majorité, a dit Modeste Batulukebo, cité par la même source. On en vient maintenant à la santé. Le Congo central frôle la barre de 1500 personnes malades de Covid-19 si rien n'est fait pour stopper la contamination. Actuellement, le cumul des cas confirmés est de 1417 personnes et 77 personnes sont décédées depuis que cette maladie est signalée dans cette province, dont 25 à la deuxième vague. 14 malades souffrant des cas sévères et modérés sont pris en charge dans les différents centres de traitement à travers la province. Plus de 5000 cas contacts sont à suivre, mais il s'observe une certaine négligence dans les efforts à déployer dans la lutte contre cette pandémie dans cette partie du pays. Le constat est de Nana Plurich Mambou.
Cette négligence s'observe d'abord au sein de la population. La plupart des mesures édictées par les autorités pour lutter contre la propagation de la maladie ne sont pas respectées. C'est le cas de l'organisation de deuil. On constate que lors des enterrements, les gens sont non seulement nombreux, mais ils ne respectent pas non plus la distanciation sociale et ne portent presque pas de cache-nez. Les accolades ont repris des plus belles dans les salutations et les gens se serrent la main comme si de rien n'était. Ces mêmes constats s'observent aussi du côté des acteurs commis dans la lutte contre cette maladie. Les activités de prévention et contrôle de l'infection ne se font plus comme par le passé. Pour preuve, les canevas de transmission des données techniques de la zone de santé de Matadi renseignent que, du 16 au 20 janvier, parmi les 25 formations sanitaires ayant accueilli des cas de COVID-19, aucune n'a été décontaminée. Sur les 196 ménages où sont sortis des malades souffrant de COVID-19, seuls 8 ont été décontaminés. D'après les mêmes documents, la province n'a plus de moyens logistiques conséquents pour réduire les risques de transmission de la maladie. Plus de kits de prélèvement pour les laboratoires, les stocks de gel hydroalcoolique est épuisé, y compris celui des gants et masques. Des Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Dans la province du Kwilu, le syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo, basé à Kikwit, plaide pour la reprise des cours dans les écoles. Dans un entretien avec Radio Okapi, le secrétaire provincial de cette structure a indiqué que la longue suspension des activités scolaires est à la base de l'accroissement du banditisme urbain. Adolphe Makobo déplore aussi le fait que certains élèves sont devenus des vendeurs dans les bars. Il a été joint par Irène Boma.
c'est l'appel pacifique de l'ange du poteau autorité sanitaire, politico-administratif, pour la reprise effective des activités scolaires, parce que le temps que nous consommons, nous ne savons pas la maladie prendra combien de temps, et nous ne pouvons pas raisonner comme ceux du Ghana qui ont confiné les enfants pendant 10 mois et maintenant ils se retrouvent. Cette situation risque d'impacter négativement l'avenir des enfants. C'est comme ça que l'ange est en fait. La reprise est vraiment brève pour que les enfants de prennent les cours parce qu'il y a des conséquences néfastes telles que nous sommes en train de constater. Il y a le banditisme, il y a le chômage et les physiques sont fragiles. Donc, nous plaidons pour la reprise des cours. Le banditisme, la consommation du chanvre, donc vous verrez que les enfants sont, et même ils sont en train de déclarer, même au niveau des non-maisons là où nous sommes avec les enfants, ils supportent mal ce temps pour que la cible parce que les marchés qui n'ont pas les mesures barrières, qui n'ont même pas les règlements de l'intérieur sont en train de fonctionner. À quoi bon de faire le chemin des écoles pendant que les marchés sont opérationnels ainsi que des bars? Et les enfants sont devenus des vendeurs dans des bars, c'est pas acceptable.
Dans l'actualité, il y a également la condamnation hier mercredi à Goma au Nord Kivu des deux criminels par le tribunal des grandes instances. Cette juridiction siégeait en chambre foraine dans un procès de flagrance à la mairie. Selon le responsable urbain de la police nationale, ce genre de procès public répond aux souhaits formulés par les cadres des bases et la population locale qui dénonçaient l'inaction de la justice et l'impunité des criminels dans la ville. À Goma, Gabriel Ouamenia.
Ces criminels sont poursuivis pour l'infraction des vols qualifiés. Ils ont écopé chacun plus de 7 ans de servitude pénale principale. Il s'agit de Mouindo Dijano et d'Alexis Zahabou. Ils doivent en outre payer les frais de dommages évalués à 5 millions de francs congolais aux propriétaires de la boutique Mieux Vivre où ils ont cambriolé dans la nuit du lundi à mardi. Selon les responsables urbains de la police, l'initiative est d'organiser des audiences publiques contre des criminels qui insécurisent plusieurs quartiers de la ville vise un seul objectif, répondre aux souhaits de la population qui crie toujours à l'impunité des criminels. Colonel Job Alissa.
Au début de l'année, nous avons lancé une opération justice population MPNC. Nous avons un seul objectif qui tend dans la même direction que la population et de réduire sensiblement l'insécurité dans la ville de Goma. Donc tout le monde qui s'impliquerait dans l'insécurité, dans la tracasserie, sera aussi ramené devant le juge.
Rappelons que c'est le troisième procès du genre organisé par les commissariats urbains de la police sur l'esplanade de la mairie de Goma. Gabriel Ouamenia, Goma, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Joe Biden a prêté serment hier mercredi, devenant ainsi le 46e président des États-Unis. Dans son discours d'investiture, il a appelé à l'unité de ce pays traversé par des crises profondes au terme du mandat de Donald Trump qui aura déchiré les Américains et bousculé le monde. Des millions de citoyens et résidents américains attendent un changement de gouvernance, notamment sur la gestion de l'immigration. C'est ce que dit Douglas Kalombo, un Congolais qui réside au Texas. Il s'est confié à Julie Ngala.
Par rapport à la politique américaine, je dirais que le programme que le président actuel a présenté avec l'immigration, ça paraît un peu plus modéré parce qu'il a... Il a dit qu'il va aider par rapport aux Mexicains, il y a eu de séparation de famille. Et par rapport à la politique africaine, je crois qu'il y aura beaucoup de choses. Je suis optimiste qu'il va faire beaucoup de choses parce qu'il y a eu des pays qui ont été... La politique immigratoire était un peu compliquée avec Trump. Et je crois qu'avec l'administration actuelle, les choses vont s'améliorer. Je le crois, mais ça va prendre un peu du temps.
L'invité. Nous recevons dans ce journal l'ambassadeur britannique en RDC, Emily Matman, vient d'effectuer sa première visite de travail dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba pour palper du doigt les réalités sociopolitiques et économiques. Il nous parle dans cet entretien réalisé par Jean Gandou.
Emily Matman, bonjour.
Bonjour.
C'est votre toute première visite dans le Grand Katanga. Vous avez été à Kolwezi et maintenant vous vous retrouvez à Lubumbashi. Dites-nous, qu'est-ce qui expliquerait votre présence dans ces deux provinces minières?
Alors, j'ai voulu venir pour voir moi-même un peu la situation d'une fois politique, mais aussi économique. et je suis allée aujourd'hui à Kolwezi pour avoir une meilleure idée des mines et des secteurs miniers pour comprendre comment ça a un effet sur l'économie, mais aussi la politique dans la région.
Et quel est le constat que vous avez fait?
Alors, c'était très intéressant. J'ai pu visiter une grande mine aujourd'hui, industrielle, mais aussi les mines artisanales aussi. Et j'ai eu une meilleure idée de les possibilités, en fait, dans les deux provinces, de ce que, avec un appui du gouvernement, les investisseurs peuvent introduire dans ce pays, mais aussi la possibilité de l'emploi pour la population et l'investissement dans d'autres secteurs aussi pour la croissance économique inclusive dans ce pays.
Parlant du secteur économique, qu'est-ce qui expliquerait le fait que dans le Grand Katanga en général, les investissements britanniques sont quasi inexistants?
C'est vrai qu'on a les investisseurs dans les mines, c'est plutôt dans les services autour du secteur. Et ça s'explique parce qu'il y avait pendant des décennies récentes une politique moins claire pour les investisseurs, une politique avec un manque de stabilité et manque de garantie sur les contrats. Donc les mauvaises expériences par certaines entreprises britanniques, ça a diminué la confiance dans le secteur privé ici en RDC. Et comme j'ai dit, il y a certaines entreprises qui ont resté, mais qui sont plutôt dans le secteur des services, dans le transport, la logistique et ce genre de choses.
Est-ce à dire que dans la province du Haut-Katanga ou au Congo en général, le climat des affaires est maintenant attrayant?
Je suis convaincue que ça peut être très attractif pour les investisseurs britanniques. Et ce que j'ai vu aujourd'hui m'a convaincue qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais c'est pas que le côté des investisseurs. Il faut quelque chose qui montre qu'il y a une réforme dans le pays et que le climat des affaires s'améliore et qu'il y a une possibilité d'avoir la confiance dans le système judiciaire, le système des institutions dans ce pays. Je crois que les expériences mauvaises dont j'ai parlé a beaucoup influencé la culture de climat des affaires. Et il y a, c'est aussi trop de questions sur les tracasseries et les harcèlements, mais aussi la question de garantie sur les contrats avec l'État congolais.
Tout à l'heure, vous avez parlé de l'aspect économique et de l'aspect politique. En arrivant dans le Grand Katanga, sur le plan politique, qu'est-ce que vous avez constaté?
Alors, dans les deux provinces, à Lualaba, mais aussi à Haut-Katanga, j'ai échangé avec les gouverneurs, mais aussi les députés au sein des assemblées provinciales. Certains ont mentionné les questions de stabilité dans les provinces et la question de soutien pour ce qui se passe à Kinshasa avec l'Union sacrée. La plupart m'ont rassuré qu'ils pensent qu'il n'y aura pas un grand changement dans les deux provinces et que qu'il y a certains politiciens qui sont déjà adhérés à l'Union sacrée, que ça peut aider avec une stabilité qui peut continuer. Mais cet inquiet reste là. Sur la question de sentiments entre les gens qui habitent ici, on parle des Katangais et autres, et par rapport à Kinshasa. Et je crois que c'est important aussi au niveau de Kinshasa qu'ils comprennent et qui sont à l'écoute aussi de la population ici.
Et quelle pourrait être la nouvelle politique de la Grande-Bretagne après le Brexit vis-à-vis de la République démocratique du Congo?
Nous allons continuer de travailler avec l'Union européenne et aussi nos autres partenaires internationaux. Nous allons continuer d'insister sur les réformes dans le pays pour que le pays puisse se développer, devenir beaucoup plus stable et qui peut rendre à la population ce qu'il mérite.
Émilie Matman, je vous remercie.
Merci à vous.
L'invité de Radio Okapi ce midi était Madame Émilie Matman, ambassadrice de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Elle était interrogée à Lubumbashi par Jean Gandou et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir écouté. Infiniment merci à Babel Mpongo Masimango qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelle Kipela Mondo.